Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Vous le savez, je suis depuis toujours un fidèle lecteur de Jean-Paul Dubois. Alors quand vous recevez un livre dont le bandeau arbore une recommandation signée Dubois, vous vous dites que vous n'avez pas vraiment le choix, que vous devez plonger dedans illico presto. C'est ce que vous faites. Et quand vous refermez le livre, vous vous dites que oui, Dubois a raison. Comme le dit le bandeau, David Thomas offre une vue imprenable sur la vie. David Thomas, c'est l'auteur de ces 102 micro-fictions qui sont autant de petites fenêtres ouvertes sur le monde d'aujourd'hui et donc sur nous-mêmes. Parfois avec tendresse, souvent avec ironie, toujours avec une humanité sans illusion mais pleine d'humour, il nous propose une série d'instantanés de notre vie à tous. Seul entouré de chiens qui mordent, de David Thomas est paru aux éditions de l'Olivier. Et là, plus encore que d'habitude, vous m'en direz des nouvelles. Bonjour David Thomas.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans la forme courte ?
Ah, je ne sais pas ce qui m'intéresse, mais c'est venu assez, assez naturellement. J'en écris depuis des années. Ça fait plus de 20 ans que j'écris des formes très courtes.
Vous avez commencé par écrire court ?
Ah oui, j'ai commencé par écrire très très court.
Parce que très souvent, un premier roman, on dit à l'écrivain, mais c'est trop long ça, il faut que tu coupes, tu as tendance à délayer, etc. Vous n'avez pas ce défaut-là ?
Non, mais en fait c'était par... Je ne sais pas si c'est par paresse ou timidité, mais je me disais si la probabilité pour se faire refuser un premier manuscrit est tellement grande que je voulais pas y passer 2 ans pour qu'on me dise non. Donc j'écrivais des petits textes et en fait l'avantage de ce format, c'est que le livre se fait sans qu'on s'en rende compte. On écrit des petits textes comme ça, puis un jour on se retourne et on a suffisamment de textes pour faire un volume. Et c'est comme ça que mon premier livre a existé. Mais après, j'avais fait une tentative de roman qui avait échoué, pas plus mal d'ailleurs, parce que c'était pas un bon livre. Et après, j'ai aussi écrit des romans, mais sur les 8 livres, j'ai écrit 6 recueils de micro-nouvelles.
Voilà, 2 romans et 6 recueils, effectivement, oui. De nouvelles. Écrire court, est-ce que c'est écrire avec une gomme ?
Oui. Mais pas autant qu'un roman. Je vais être franc, ça vient. En fait, c'est pas compliqué, mais c'est le procès. Il faut tirer sur le fil. Ça vient ou ça vient pas. Il faut avoir l'idée. Une fois qu'on a l'idée, enfin en tout cas moi, une fois que j'ai l'idée, ça vient assez vite. Mais parfois c'est raté. Alors c'est le texte entier. C'est pas que je. Voilà, il finit à la poubelle. Mais le texte en lui-même, il est rarement... je le retravaille parfois, mais en général, ça vient assez vite.
Alors, vous venez d'utiliser une métaphore intéressante, c'est la métaphore du fil. Et il se trouve que la première nouvelle de ce recueil, elle est intitulée « Le fil des secondes ». On l'écoute tout de suite.
Ce sont des mots que l'on a entendus derrière une porte et qui nous invitent dans l'intimité des autres. C'est la tête que l'on tourne vers un éclat de rire dans la rue, un strapontin de métro qui claque. Le soupir d'une vieille dame montant difficilement un escalier de Montmartre. Un volet qui s'ouvre en face de chez soi. C'est un paréo jeté sur une chaise longue dans un jardin d'été. Ou un chien qui court vers son maître. Une chanson minable venant d'un mauvais transistor en traversant une cour d'immeuble. Un type qui gueule en doublant nerveusement. Des couverts déposés sèchement sur une table en verre. Le regard de celui à qui on a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Une conne acariate dans une file d'attente chez le primeur. Des phrases de Fauderche lors de débats télévisés. Le sourire suffisant d'un prétentieux. La bêtise du convaincu. Le hoquet de tristesse d'une fille apprenant une mauvaise nouvelle au téléphone et qui sort du magasin pour pas qu'on la voie pleurer. Et que l'on voit pleurer sous un platane quand on sort du magasin. C'est une inspiration plus profonde que la normale. Une porte fermée brutalement, des pas pressés. C'est la phrase glissée dans une conversation, une phrase qui ne paye pas de mine. Prononcé comme on dit ça comme ça et dont pourtant on se souviendra toute sa vie. C'est le bruit que font les autres sur le fil des secondes.
Alors David Thomas, dans quelle disposition d'esprit faut-il être pour réussir à attraper et ensuite pour dérouler le fil des secondes ?
Ah, je sais pas, il faut être un peu comme un photographe et c'est ce que je fais.
Un photographe ?
Oui,
C'est-à-dire que vous répondez par l'œil, par l'observation.
J'estime que je fais de la photo.
Des instantanés,
oui.
De vie.
Oui, j'attrape une émotion, un regard, un silence, un geste. Il faut se promener dans la vie et puis...
Observer,
être comme un petit escargot avec ses petites antennes, vous voyez. Il faut, Et puis on attrape des choses comme ça, un peu comme un photographe. Hein.
Oui, un petit peu comme un photojournaliste aussi, parce que votre premier métier, c'était le journalisme.
Oui, oui, mais ça n'a rien à voir. Je faisais un journalisme qui n'a rien à voir avec ça.
Rien à voir. Non. Mais enfin, cette ouverture d'esprit, cette curiosité, cette ouverture à l'autre, cette ouverture
oui,
au
faut,
monde.
Je ne sais pas ce qu'il faut. Honnêtement, je ne pourrais pas répondre à cette question. Moi, je sais comment je procède, mais c'est parce que je...
Parce qu'on vous imagine dans la rue, hein, en train de regarder, d'observer, en train d'écouter, enfin tous vos sens en éveil. Vous prenez des notes, vous avez un petit carnet. Quand une idée vous vient, vous dites « Ah, ça c'est peut-être le début de quelque chose ?»
Je suis attentif, effectivement. Parfois, j'entends une phrase et je trouve ça étonnant ou ça m'amuse, ou ça me touche, et puis ça donne un texte. Alors après,
donc vous notez, vous le gardez dans la tête, vous laissez
la note,
elle ressurgit comme ça
non,
plus
non,
tard.
Enfin, je la mets de côté, puis je me dis tiens, ça c'est bizarre, cette situation est étonnante, est amusante, et je rentre chez moi. Et mais si vous voulez, pour faire bien comprendre de quoi il s'agit, c'est-à-dire que le côté instantané, c'est la fin du texte. Mais moi, je suis pas un photo. Quand vous regardez une photographie, vous avez une vision immédiate de la situation. Et là, avec des textes comme ça, je suis obligé de faire une mise en place. Hein, qui, quand, ou quoi, pourquoi, comment, et qui amène à ce côté instantané.
Donc vous commencez par la chute, vous commencez par la
non,
fin
de
chaque texte.
J'ai souvent la fin. Avant.
En tête, avant.
Ah oui, souvent, très
donc,
souvent.
L'idée, c'est de dérouler le fil, justement, jusqu'à cette
exactement,
conclusion.
Exactement, après je remonte le courant.
Alors nous sommes cette fois-ci à la page 71, et la nouvelle s'appelle « C'est exactement ici ».
Nous étions sortis à la même station de métro, et il marchait une dizaine de mètres devant moi. Je m'amuse toujours à compter le temps que prend de suivre quelqu'un avant que nos routes se séparent. Cela faisait 6 ou 7 minutes que nous avancions dans la même direction, ce qui est assez exceptionnel, sauf si l'on se rend au même endroit. À un moment, il a sorti le téléphone de sa poche et il s'est arrêté. Alors j'en ai fait autant. Il est resté figé pendant un temps qui m'a paru très long. Il a baissé les yeux, puis il a regardé autour de lui et est allé s'asseoir sur un banc à quelques pas de là, où il avait reçu son coup de fil. Il semblait totalement abattu. Il se passait la main dans les cheveux, parlait peu, hochait la tête comme pour acquiescer, faisant l'effet d'un homme qui ne lutte plus. Il a raccroché et il est resté 3 ou 4 minutes sur le banc, fixant d'un regard vide sans doute une imperfection du trottoir ou des souvenirs. Après cela, il est revenu sur ses pas pour rejoindre l'endroit exact où il avait décroché son téléphone. Il a sorti de sa poche un marqueur blanc, puis inscrit quelque chose sur l'asphalte. Et il est reparti. Lorsque je suis arrivé à l'inscription, j'ai lu « C'est exactement ici, le 8 avril 2017 à 9h12, que j'ai appris la mort de mon père. »
Et à plusieurs reprises, David Thomas en croise dans ce recueil la figure du père décédé ou du père qui va mourir. Il y a une raison particulière ?
Non. Peut-être que c'est quelque chose que je redoute. Et peut-être que je redoute ça aussi parce que je suis un jeune père. Voilà. Je ne pourrais pas vous en dire plus.
Il y a aussi une mère hein, qui va mourir d'une façon assez violente, assez particulière. Et puis, il y a quand même des pères qui sont en vie. Hein. Il y a un père qui se balade en forêt avec son fils. On est à la fois dans le jeu et dans la transmission. Il y a une mère qui passe une soirée assez singulière lors d'un séjour au Maroc entre ses deux enfants. L'un est adolescent. L'autre est un peu plus jeune. La question de la transmission, elle est quand même très très présente aussi dans ce recueil, David Thomas.
Je ne sais pas si c'est la transmission. C'est le premier cercle. Voilà, les parents, la famille, les enfants, les frères, l'époux, l'épouse, la femme, le conjoint. C'est le premier cercle. Et moi, je vais chercher. Je raconte, comme le dit, vous le disiez en introduction avec le bandeau de Jean-Paul Dubois, moi je parle de la vie, voilà, et la vie, ben, c'est le premier cercle. Hein, enfin, ce qui nous touche le plus, ce qui nous concerne le plus, c'est ce qui nous atteint le plus. Donc oui, je parle beaucoup, j'évoque souvent ça, parce que c'est près de moi, c'est ma vie, enfin, c'est pas ma vie au sens factuel, mais je suis comme tout le monde, je suis touché par... parce que tout ce que vous venez d'évoquer, je ne l'ai pas vécu. Parfois, on m'a raconté.
Mais vous auriez pu.
Oui, ou pas. Enfin, la jeune mère au Maroc, je n'aurais pas pu. Mais c'est parfois des choses que j'ai entendues ou qui nous mettent dans des situations que je trouve qui en disent beaucoup sur sur la vie que nous, cette étrange chose qu'est la vie, quoi.
Mais donc c'est souvent de la réalité et du quotidien que démarre la fiction.
Ah bah oui, moi je trouve. Oui, je trouve que la réalité est un bon vivier.
Oui, donc la fiction a besoin du réel pour ensuite devenir littérature.
Oh, ça, j'en sais rien.
Vous ne posez pas toutes ces questions trop intellectuelles, en fait.
Je vais vous dire franchement, je ne me pose pas ces questions parce qu'elles m'encombrent.
Ah.
En fait, je ne me pose pas ces questions sur ce qu'est la littérature, comment faire de la littérature. Je me refuse à me poser ces questions. J'estime que ce n'est pas mon problème.
Vous écrivez, c'est tout.
Moi, mon problème, c'est d'écrire. Et c'est de viser juste. Voilà, c'est d'être juste. C'est ça, mon problème. Après toutes les considérations sur la littérature, que je peux comprendre, j'estime que ce n'est pas mon travail. C'est le travail des éditeurs, des libraires, des critiques, des universitaires. C'est eux qui font ce travail, qui disent où commence, où finit la littérature. Moi, je n'ai pas à me poser ce genre de questions. Je veux pas me les poser. Ce sont des questions qui ne m'intéressent pas. Parce que je sais que si je commence à me poser ces questions, je n'en finirai pas. De trouver des réponses qui seront constamment remises en question. Donc je ne trouverai jamais de réponse. Donc j'ai pris le parti très vite, très jeune, très tôt dans mon parcours d'écriture, de mettre ça de côté. Je ne me pose pas ce genre de questions.
Mais alors vous disiez, mon but quand j'écris, c'est d'être juste.
Oui.
À partir de quel moment vous considérez que vous êtes juste et donc que vous pouvez poser la plume ?
Quand j'ai nommé ce que j'ai éprouvé. Je ressens quelque chose. À partir du moment où les mots que j'ai trouvés sont... c'est comme mettre deux feuilles transparentes, vous savez, deux feuilles de... papier calque l'une sur l'autre avec le même dessin. Voilà, ça correspond, c'est bon. Ça y est. Les traits ne sont pas moirés, on disait ça dans le temps, avec des cromalins. Vous savez, quand ça moire, c'est un peu, les couleurs sont un peu décalées. C'est pas décalé, c'est juste. On y est, on atteint la cible, on atteint le nerf. Voilà, j'atteins le nerf, c'est bon.
Ces deux amis comme ça, revenant du cortège. Et c'est elle et c'est lui, comme ça, prise au piège. Puis une clé de bras, respiration brisée. Un coup dans les tibias de cette matinée. C'est le monde à l'envers, hurlé sur le bitume. Et un genou à terre, la rage qui se rallume. Ces deux amis comme ça, projetés sur le sol. Les fringues arrachées, l'espoir qui dégringole. Poussés dans le fourgon, les poignets défoncés. Ces deux amants comme ça, qui ne faisaient que passer. C'est le monde à l'envers, et c'est l'envers du monde. Le dégoût qui grandit, et l'orage qui gronde. Possible que le vent change de partenaire. Possible que sous la porte, il y ait de la lumière. Possible que la rue reprenne des couleurs. Possible si j'en crois des lèvres sur ma peur. On le connaît le prétexte, on le connaît, on le refuse. Sous prétexte de quoi, c'est ma traque qui fuse. On connaît le refrain depuis la nuit des temps. L'ivresse du pouvoir, le fourgon dans le vent. Les épaules qui craquent, le jour qui dégénère. Quelques côtes fêlées et le monde à l'envers. Je parle d'où je parle avec mon ADN. Et ce sang fugitif qui coule dans mes veines. Qui ne fait qu'un seul tour dans sa fidélité. Qui ne fait qu'un seul tour pour ne plus accepter. La fièvre vissée au point gueulée debout et fière. Pour qu'enfin se retourne ce monde à l'envers. Partenaire, possible que sous la porte il y ait de la lumière, possible que la rue reprenne des couleurs, possible si j'en crois des lèvres sur ma peur, possible que le vent change de partenaire, possible que sous la porte il y ait de la lumière, possible.
Monde à l'envers, Noé Préchoff dans VMDN sur RFI, avec l'écrivain David Thomas qui publie Seul, entouré de chiens qui mordent aux éditions de l'Olivier. Nous sommes à la page 104 et la nouvelle s'appelle 1 minute 12 secondes de gloire.
30 ans que j'attendais ça. J'ai commencé à courir à la sortie de l'adolescence. C'est mon père qui m'a refilé le virus. Tous ceux avec qui j'ai partagé cette passion pensent comme moi. Quand on se prend au jeu, on ne peut plus s'arrêter. À raison d'une dizaine de marathons par an, je te laisse calculer le nombre de courses que je me suis tapé. Eh ben, tu me croiras ou pas, mais j'en ai pas gagné une. Et non seulement je n'ai jamais connu le peloton de tête, mais chacune de mes arrivées s'est faite dans l'indifférence. Quand on est 200, 500 ou 2000 à courir, vient un moment où le public t'attend plus. Si t'es pas dans les premiers 15-20%, il se casse et tu deviens juste un gars qui finit la course, longtemps après les champions, c'est tout. Un gars qui a participé et qui a permis aux gagnants de connaître la gloire. L'autre soir, j'ai eu une idée. À 19h59, je me suis positionné à l'angle de la rue des Martyrs et de la rue des Abbesses. J'avais fait du repérage et je savais exactement à quel niveau de la rue c'était le plus concentré. Pile une cinquantaine de secondes plus tard, je partais et m'enfilais toute la rue des Abbesses jusqu'à la rue Le Pic. 1 minute 12 exactement. 1 minute 12 à courir sous les applaudissements que les gens à leur fenêtre adressaient au personnel soignant. Chez les bobos, ils sont nombreux à exprimer leur gratitude, tu peux me croire. Et moi, en dessous, qui me rejouais ces arrivées triomphantes que j'avais jamais connues. C'était tellement bon que cette minute 12, je vais me la refaire tous les soirs, jusqu'à la fin du confinement.
Bon, moi, évidemment, je vais exploser de rire, David Thomas. De l'art de la chute, là, pour le coup. Hein. De l'art aussi d'ancrer un récit dans une époque, David Thomas. Il fallait une... Il y en a d'autres, hein, d'ailleurs, dans le recueil. Il fallait au moins une allusion au confinement, à la période que nous venons de vivre.
Ah non, alors pas du tout. Parce que au contraire, je me suis refusé catégoriquement à écrire sur le confinement. On me l'a même demandé, j'ai dit non. Non. C'est... Là, en fait, je voulais pas écrire sur le confinement, mais c'est un ami hein, qui m'a raconté cette anecdote et je trouvais ça tellement charmant. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu m'autorises à en faire un texte? Parce que c'est, il a vraiment fait ça pendant le confinement l'année dernière. Et je trouve ça génial. Donc voilà, je l'ai fait. Mais bon, non, j'avais pas du tout envie d'écrire sur.
Bon, il y a une autre nouvelle, moi, qui m'a fait penser au confinement, mais c'est peut-être complètement fortuit. C'est lorsque votre personnage rêve d'un Paris vide. Et là, on a effectivement images de ce Paris confiné, complètement vide, qu'on a pu voir effectivement soi-même ou sur les écrans de télévision du monde entier.
J'ai pas du tout fait le rapprochement. C'est un rêve que je fais depuis que je suis tout petit, moi, un peu infantile, de se retrouver tout seul dans la ville comme ça.
Donc vous étiez très heureux alors pendant le confinement?
Ah ben j'étais pas à Paris, moi, de toute
façon. Ah d'accord, donc effectivement ça ne fait pas grand-chose.
J'étais très heureux, j'ai été très chanceux, mais non, parce que j'ai un petit garçon, donc dans un appartement, il valait mieux partir.
Comment est-ce que vous expliquez, David Thomas, que ces nouvelles qui mettent en scène des personnages très différents, à chaque fois, vous endossez effectivement une personnalité, une vie quotidienne, un passé, un métier, des traits de caractère, eh bien, soit si universel.
C'est un compliment que vous me faites, là.
Ben oui, parce que vous êtes une sorte de moraliste, en fait, David Thomas. Vous êtes un témoin de l'époque que nous vivons.
Oui, enfin, de l'époque, je sais pas, mais le côté moraliste, je prends, oui, parce que tu demeures.
Oui, alors c'est pas du tout un donneur de leçons ou un prêcheur de morale. C'est une étude de mœurs.
Oui, mais c'est ça. Il y a un côté étudier. Je sais pas si j'étudie rien, mais j'attrape, je montre, je fais des petits croquis comme ça sur la nature humaine en fait, plus que l'époque. Parce que je pense que
ça traverse les époques
oui,
en fait.
C'est immuable. Ce qui change, c'est l'objet.
Les défauts, les qualités.
L'homme
n'a pas
changé à iota depuis 200 000 ans. Hein. Homo sapiens, c'est le même. Mais ce qui change, il a des peurs, des angoisses, des plaisirs, des joies, des jalousies, des croyances, etc., etc. Mais ce qui change, c'est l'objet de ces croyances. De ses joies, de ses jalousies, de ses croyances, de ses peines. C'est ça ce qui change.
Oui, les circonstances changent, mais l'être humain reste le même.
L'être humain est le même. La matière et le matériau est exactement le même. Donc c'est pas lié à notre époque. Après, chaque époque a ses travers aussi. Bon, la nôtre, elle a un petit travers. Elle va très vite. Je trouve qu'on vit beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. On fait tout vite aujourd'hui. Tout doit être vite fait. On mange vite, on se déplace vite, on travaille vite. on pense vite, on réagit vite, on donne son opinion vite, ce qui fait que ça donne plein de petits accidents.
Oui. La vitesse, et là, vous dites attention.
Oh ben, la vitesse,
il faut ralentir.
C'est indéniable. Oui, on ne peut pas continuer à vivre à cette vitesse-là parce que la somme de tous ces petits accidents peut-être, j'espère que non, un jour nous mener à un gros accident.
Oui, en même temps, c'est les petits accidents qui font les petits récits et peut-être les grands livres.
Ah, ça, je sais pas. J'en sais rien.
Il y a, dans ce recueil, énormément de petits clins d'œil à la société, pour moi, hein, c'est comme ça que moi, en tout cas, je l'ai ressenti, à la société d'aujourd'hui. Par exemple, il y a cette question de la célébrité qui revient aussi à de multiples reprises. Il y a le quart d'heure warholien de célébrité. On l'a entendu là, à l'instant avec ce jogger dans le quartier de Montmartre. Il y a aussi la reconnaissance de l'autre qui compte aussi énormément. Ça passe par une page Wikipédia. Ça passe par l'action d'un streaker. Alors, un streaker, faut peut-être expliquer ce que c'est. C'est un homme ou une femme qui se balade tout nu.
Oui, ou pas tout nu. Hein. Là, il n'est pas tout nu. Bon, là, dans le texte auquel vous faites référence, c'est le match de handball.
Voilà, c'est ça. Passe pendant un match de handball, absolument. Oui. Mais qui, donc, comme ça,
qui apparaît sur le terrain.
De par son apparition, perturbe la réalité et attire l'attention de gens qui ne s'attendaient absolument pas à le voir débarquer là. Cet appétit de célébrité, ça vous inquiète? Ça vous fait sourire? Comment vous vous positionnez par rapport à ça?
Plus que de la célébrité, je pense que tous ces textes soulignent la solitude des personnages et ce besoin, quoi qu'on fasse, de nous sortir de nos solitudes. Les personnages que vous évoquez, ce sont souvent des gens qui sont seuls ou qui éprouvent de la solitude. L'exemple de celui qui saute sur le terrain pendant la finale de la Coupe du Monde de handball et qui va saluer tous les joueurs, c'est un homme qui est assez seul. Il le dit, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis, mais j'ai une passion dans la vie, c'est l'équipe de France de handball qui suit l'équipe de France de handball depuis ça fait 25 ans, qui suit tous les matchs, etc., etc. Et c'est une façon pour lui, il le dit à la fin du texte, voilà, je suis un homme qui vit seul, et pendant quelques secondes, j'ai été entouré de, je crois qu'il y avait 6 millions de spectateurs pour la finale de la Coupe du Monde à Bercy, Arena, là, je sais pas. Et voilà, le type dit, pendant 30 secondes, j'ai été entouré de 6 millions de personnes.
C'est une façon d'exister.
Oui, c'est une façon de tordre le cou, de se dévier un tout petit peu de sa solitude, je crois.
L'être humain, David Thomas, il vous énerve ou il vous attendrit?
Il ne m'énerve pas, il me désole plus qu'il m'énerve. Et il m'attendrit au sens où j'ai pas le choix que d'être... Je suis indulgent, moi, avec mes personnages. Il y en a souvent qui sont très cons, hein. Mais je ne peux pas m'empêcher d'être indulgent. Et sans cette indulgence, je ne sais pas très bien si j'arriverai à supporter la vie. Je trouve que... Et puis, il s'ajoute à ça que... Moi, je suis un enfant du XXe siècle. Hein. Je suis né au XXe siècle. J'ai été élevé par des gens qui ont traversé ce siècle et qui ont vécu... Bon, donc, j'ai été le témoin, moi, des atrocités de ce siècle. C'est quand même un siècle où on a eu 5 génocides. Où c'était le siècle le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité. On a atteint un sommet là, entre la Shoah, le communisme, les dictatures, les génocides. Enfin, c'est ahurissant. Ahurissant. Donc, on en sort, je trouve, un peu groggy de ce siècle. Et moi, j'ai été très marqué par des lectures de livres de Lee Wiesel ou de Primo Levi. Ça m'a marqué, vraiment marqué. Et bon, j'ai besoin d'être indulgent parce que l'homme est capable. Bon, c'est vraiment un cliché, ce que je vais vous dire, du meilleur comme du pire, mais j'ai besoin d'être indulgent, oui.
Et vous êtes
très optimiste non plus.
Oui, vous êtes indulgent et vous incitez à l'être aussi à travers une nouvelle, moi, qui m'a beaucoup ému. Pourtant, c'est très étonnant parce que je vois pas pourquoi elle m'a touché à ce point-là. C'est une nouvelle qui raconte l'attitude d'un routier envers son patron. Vous pouvez nous raconter ce contexte, David Thomas?
C'est un monsieur qui qui rencontre une passe difficile. Il ne trouve pas de travail. Et puis, un jour, il y a quelqu'un qui lui tend la main. Voilà, il est un peu... ça fait des mois qu'il rame. Et puis, il y a un petit patron qui veut bien l'embaucher. Sauf que ce petit patron, les choses sont très, très difficiles pour lui. Voilà, c'est un monsieur qui se démène, qui se bat pour garder la tête hors de l'eau. Donc, les conditions de travail sont pas bonnes. C'est très dur. Et ce gars travaille pour ce patron pour qui il a une grande admiration. Et puis, ce monsieur, ce jeune homme, il est plein de conviction. Il faut continuer à se battre contre contre le pouvoir, contre l'argent, contre... Et ce patron, il a une grande admiration pour lui. Et puis un jour, on essaie de le débaucher pour aller dans la société absolument qui fait rêver tous les routiers, quoi. Et dans la Rolls des routiers, si vous voulez. Et là, il est dans un cas de conscience. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reste avec ce petit patron dans des conditions de travail difficiles avec un mauvais salaire? Ou est-ce qu'il accepte la proposition, c'est-à-dire que une main que la vie lui tend et que probablement elle ne lui retendra plus jamais? C'est la chance de sa vie. Et alors ce pauvre homme, il est entre les deux, que c'était terrible, et il choisit la main tendue. Et ça le met dans un positionnement très difficile, quoi.
Voilà, et puis et à la fin de la nouvelle, il y a la réaction de cet homme, donc patron, petit patron, qu'il a un petit peu tiré du ruisseau. Et les deux personnages là, pour le coup, sont extrêmement humains et extrêmement attendrissants. L'une des premières nouvelles de ce récit, on change complètement de paradigme, David Thomas, pose une question là aussi extrêmement actuelle. C'est la question de l'injonction à prendre position.
Ah oui, ça c'est insupportable. Voilà. Vous parliez de notre époque. Voilà un des travers de notre époque. Il faut prendre position. Il faut avoir une opinion sur tout et n'importe quoi. Mais ça rejoint ce que je vous disais sur la vitesse. Et c'est amusant. Enfin, amusant. C'est désolant. C'est consternant. Regardez les chaînes d'infos. On fait toujours venir des gens pour qu'ils donnent leur opinion. Il se passe un truc, un événement. Et on va demander à des gens de dire ce qu'ils pensent sur telle chose. Alors évidemment, qu'est-ce que vous voulez Alors après, on se plaint qu'ils disent des conneries. Mais évidemment qu'ils disent des conneries, parce qu'ils n'ont pas le recul pour penser ce qui se passe, pour évaluer, pour avoir un bon jugement. Quand on vous met un micro sous le nez alors que le truc vient de se passer, comment voulez-vous avoir du recul sur ce... Alors on dit des bêtises. Et après, il faut tout le temps avoir... Et ça, c'est ce truc d'avoir une opinion, moi je trouve ça un peu désolant.
Continuons à feuilleter votre recueil « Seul entouré de chiens qui mordent » aux éditions de l'Olivier. David Thomas, nous sommes à la page 65, la nouvelle s'appelle « Se faire du bien ».
Les gens sont nerveux, à cran. C'est vrai, dans la rue, le métro ou au boulot, on n'arrête pas de se faire engueuler ou agresser. Je sais pas si c'est la ville... ou parce que le monde est devenu de plus en plus dur, ou la pression qu'on se met tout seul. Mais on sent de l'électricité dans l'air. Rien que dans les regards, ça se voit, faut pas faire chier. Ils sont tous au bord de l'explosion, du bourre-pif ou du meurtre. Je crois que les gens se rendent pas compte à quel point c'est important de se faire du bien, de se détendre, de s'occuper un peu de soi et de s'aimer un peu plus. Moi, je le dis tout le temps, y a pas de raison qu'on soit pas gentil aussi avec soi. J'ai pigé ça toute petite. Quand j'entendais mes parents se foutre sur la gueule derrière la cloison. Dès qu'ils s'engueulaient, ça devenait un réflexe. C'était comme me téléporter sur une plage des Marquises. Une défense mentale et systématique qui a fait de moi la fille la plus zen du monde. Une espèce de carapace contre l'agressivité. Il paraît que ça diffuse dans le corps des trucs hyper bons pour le cœur et le cerveau. Je suis devenue une vraie pro pour tout ce qui est de se faire du bien. Je connais tout ce qu'il y a sur le marché. Dernièrement, j'ai acheté le Womanizer Premium. Là, je peux le confirmer, on a eu affaire à des cadors, des vrais génies, des gars qui ont bossé sur le produit pendant des années avec études scientifiques et tout. Le revers de la médaille, c'est qu'après avoir connu ça, je sais que jamais plus un mec ne sera à la hauteur. Que le sexe avec un homme sera dorénavant une gentille petite promenade printanière qui ne marquera ni le corps ni l'esprit. Même un Zidane du paddock me paraîtra fadasse, commun, nourricier, mais sans goût. Il n'empêche, maintenant que j'ai connu cet engin, je ne peux m'empêcher de prêcher partout la bonne parole, un peu comme ces gars du 1er siècle qui parcouraient la Palestine et la Galilée afin de diffuser le message du Christ. je suis convaincue que ça peut changer la nature humaine. Ça tient à pas grand-chose, juste deux mots. Branlez-vous.
Alors David Thomas, je ne vais pas vous demander si c'est facile de terminer une nouvelle par les deux mots qu'on vient d'entendre. Je vais vous demander en revanche si dire « je » à la place d'une femme, c'est plus compliqué que de dire « je » à la place d'un homme.
Ah, pas du tout. Non, non. Moi, ça, enfin, je n'ai aucune difficulté. En fait, je me mets complètement... Moi, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas un seul texte qui ne soit pas à la, troisième, à la première personne.
Absolument.
Et c'est mon sixième recueil de nouvelles, de micro-nouvelles, et je n'ai jamais écrit un seul texte à la troisième personne.
Vous dites toujours « je ».
Toujours. Toujours « je ». Mais ça, c'est je le fais exprès. Hein. C'est parce que moi, j'ai besoin de me mettre totalement dans la peau du personnage.
Alors, comment vous faites ?
Bah, j'imagine.
Tout simplement.
Moi, ouais.
Mais il faut que ce soit crédible.
Ah ben bah ça, c'est à vous de me dire si c'est crédible ou pas.
Ah ben bah, ça l'est. Mais est-ce que vous étudiez justement le, je sais pas, moi,
non, non,
telle ou telle profession
je me mets dans sa peau. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il ou elle ressent, éprouve. Ça peut être une jeune fille de 18 ans, comme une vieille dame de 95 ans. J'essaie de me... Je sais pas comment vous dire. Si je me mets dans sa peau, quoi, comme un acteur, quoi, qui se met dans la peau du personnage. Mais moi, je fais ça aussi parce que je veux réduire. Je veux pas de distance entre le personnage et moi. Je veux réduire cette distance qui pourrait y avoir pour être plus juste, justement.
Alors, vous évoquez aussi la solitude générée par les écrans au sein d'une même famille. Hein, on vit plus ensemble, mais on vit côte à côte. Au fait, est-ce que c'est très différent pour vous si chacun est devant un écran de télévision, d'ordinateur, de téléphone, ou si chacun est devant un livre ?
Bah, je préfère. Si vous me parlez de moi, je préférerais que pour mon fils, je préférerais qu'il soit devant un livre. Bon, il est encore, il sait pas encore lire, mais quand ça va venir, je vais lui faire la guerre avec ça.
Mais un livre, c'est mieux que la télé ?
Je l'emmerde déjà avec ça, avec les écrans. Pardon ?
Un livre, c'est mieux que la télé ou c'est mieux que l'ordinateur ?
Non,
ou le jeu vidéo ?
Le livre n'est pas mieux que la télé, c'est ce qu'on en fait. Et c'est ce que les gens en font. Je pense pas que la télé soit mauvaise. Il y a des très bonnes choses à la télé. Les écrans d'ordinateur et Internet, je pense pas que ce soit mauvais. C'est la façon dont on l'utilise qui est mauvaise. Et les gens qui font de la télé, les gens qui font des réseaux sociaux l'ont très bien compris. Ils font appel à ce que on a de plus faible, de plus veule, de plus... Voilà, parce qu'ils vendent. Ils vendent quelque chose. Alors bon, ben, c'est... on va... Ils savent très bien nous atteindre.
Voilà,
et nous, il faut être, avoir un peu de caractère, de force pour pas se laisser avoir par ce genre de truc.
Et la télé, vous la décrivez comme cette miraculeuse invention qui permet de se détourner de soi-même et de ce qui nous hante.
I am singing my love for you. And it is deep, 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 my love for you. You left me in the summer and promised me forever, man. But last I checked, forever never ends. And it is deep, 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 my love for you. What can a sad girl do? Take a look at your phone. You got a man up, yeah, I want you home. I'm new at being all alone and crying all the time. You, baby, where you at? You gotta show up, yeah, I want you back. I'm new at being sad like that and crying all the time. I am sending my love. Fucking mess. And it is deep, 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 my love for you. What can a sad girl do?
Sad girl, Charlotte Cardin, extrait de son nouvel album Phoenix dans VMDN sur RFI. Venons-en maintenant, David Thomas, à la nouvelle la plus courte, celle qui se trouve à l'ultime page du recueil. C'est la plus courte parce qu'elle n'est pas terminée. Vous en avez écrit le début, qui tient en un court étrange de deux phrases. « Ça va », dit le premier personnage. « Ça va », répond le second. Et vous encouragez, avec des points de suspension, le lecteur à continuer à écrire lui-même sa propre nouvelle. Alors nous, avec Baptiste Antoine, nous avons eu l'idée de proposer l'exercice à quelques-unes des grandes voix de RFI, en ajoutant une contrainte supplémentaire. Terminer l'histoire en juste deux phrases. Certains ont pris quelques libertés supplémentaires. Et voici ce que ça donne. Ça va, Caroline Paré ?
Ça va, oui, ça va. En fait, non. Mais si, ça dépend. Vraiment ? Vous avez le temps ? Ça vous intéresse ? En tout cas, là, tout de suite, ça va. Je suis bien avec vous, et c'est vrai, moins bien avec d'autres. Mais ce qui compte, c'est qu'au bout du compte, je me dise toujours que ça va aller. Et d'ailleurs, tiens, bah, j'y vais.
Et vous, ça va, Daniel Desesquel ?
Ça va, je me suis fait vacciner aujourd'hui. Je me sens plus léger et soudain, Jean de La Fontaine me revient à l'esprit. Dans la saga planétaire du Covid et la bataille mondiale des vaccins, la tortue européenne va-t-elle rattraper sur la ligne d'arrivée le lièvre britannique juste avant que la bise ne revienne ?
Et vous, Geneviève Delrue ?
Ça va, ça va. 16 heures passées dans l'attente des secours avec un juif d'une communauté hassidique de New York ont eu un dénouement inattendu. Dans l'arrière-boutique où nous nous étions réfugiés après l'effondrement d'une partie de la maison, lui qui avait évité de jeter le moindre regard à la femme goy que je représentais à ses yeux, m'a laissé son portable en me souriant. Il faut dire qu'une expérience comme celle-là, ça fait tomber les barrières.
Tiens, voilà Juan Gomez. Ça va, Juan ?
Ça va, enfin, je suis encore très perturbé. Ce matin, comme tous les matins, je suis allé au studio pour présenter mon émission, et là, que vois-je, assis à ma place, un homme qui me ressemble, mon sosie, habillé exactement comme moi, avec le même timbre de voix. Nous nous sommes regardés, et là, il m'a dit « ça va ?»
Eh bien, je renvoie la question à notre Madame Football, notre Annie Gasnier, internationale. Comment ça va, Annie ?
Ça va. Mais le football, celui qui fait ou faisait rêver les enfants, ne va pas bien. On le savait mal en point, écartelé entre mérite et argent. Depuis hier, tout est clair. L'argent a gagné. La passion, l'émotion, la naïveté ont été vaincus. La fin des illusions.
Et vous, Caroline Lachowski, ça va ?
Ça va. Parce que je ne suis pas seule, entourée de chiens qui mordent. Je préfère penser que je suis entourée par tous les autres vivants, mes frères et sœurs humains, mais aussi animaux, végétaux, voire microbiens. Pendant que j'écris là, sur ma peau, dans mon ventre, je cohabite avec des milliards d'autres êtres vivants. Un écosystème à moi toute seule, c'est pas mal. Et ça fait écho à cette phrase d'un astrophysicien. Nous sommes tous des poussières d'étoiles, issues d'une même généalogie cosmique. Nous sommes les frères des bêtes sauvages et les cousins des coquelicots des champs. Jamais seuls, je vous dis.
Merci Caroline. Alors vous avez entendu David Thomas, le don d'imagination et du style qu'on voit sur RFI. Bon, alors vous les connaissez pas tous peut-être, ça en dit long sur leur personnalité, je peux vous dire.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a des réflexes qui reviennent, ça illustre aussi sur les personnalités. Enfin non, c'est très marrant comme exercice là que vous me proposez.
Laissez le lecteur se raconter sa propre histoire. C'est comme ça que vous expliquez la démarche à la fin du recueil à travers ces points de suspension qui terminent le livre. Le lecteur ou la lectrice, quand il se retrouve face à un recueil de nouvelles comme celui-ci, il va les picorer, il va parfois les lire dans l'ordre, parfois il va piocher au hasard, dans le désordre. Comment est-ce que ça s'ordonne, un recueil de nouvelles, David Thomas ?
Pour répondre à votre question, c'est que chacun se fait sa propre histoire. Ce qui est amusant, ça confirme l'idée que le lecteur interprète, chaque lecteur interprète une chose. C'est pas pour rien que j'ai fait ce petit truc qui ressemble un peu à une blague, hein, que ce dernier texte. D'abord, c'est pour clore le livre. Et que souvent, j'essaie de trouver un texte qui puisse fermer le livre. Mais
là, vous l'avez plutôt ouvert que fermé.
Oui, mais justement, mais c'est une façon de le fermer aussi. Ça s'appelle une fin ouverte, mais c'est une façon de terminer le livre, de dire aux gens, allez-y. Mais tout ça pour dire que chacun se fait sa propre lecture, chacun interprète un événement à sa propre façon, avec sa propre sensibilité. Donc c'était juste pour ce clin d'œil. Ok, rappelez-moi votre question.
Que comment est-ce qu'on range les textes ? Comment est-ce qu'on les classe ?
Comment
est-ce qu'on
les livre ?
Comment est-ce qu'on les ordonne justement sur le recueil ?
Écoutez, c'est très simple. Moi, j'essaie de faire des pleins et des liés. Voilà. Donc j'ai un petit rite quand je finis un recueil, comme ça, quand j'ai suffisamment de textes. D'abord, pour faire un recueil de 104 textes, j'en écris 150 ou 160. Donc il y a des invendus.
De l'élagage.
Oui, non, moi j'appelle ça dans mon ordinateur, ça s'appelle les invendus. Mais c'est les invendus, parfois ils sont invendus pour un recueil, mais ils sont vendus pour un
recueil. On ne peut rien pour attendre.
Voilà, pour un recueil suivant. C'est juste que voilà, je ne le mets pas là. Alors en fait, je pousse les meubles de mon salon et je mets en rond tous les textes par terre. Tous. Et je me mets au milieu de ce cercle où je suis entouré de tous les textes. Et je les prends un par un, et là, je compose le livre. C'est-à-dire que je prends un texte grave, et ensuite, j'essaye d'en prendre un autre plus léger, ensuite, je mets une voix féminine, ensuite, je prends un autre texte plus grave, ou qui parle de tel truc, ensuite, je fais attention à ce qu'il n'y ait pas deux textes qui parlent à peu près de la même chose de suite, ou au bout de... voilà, enfin, j'essaie d'espacer tout ça, vous voyez. Et tous les 5-6 textes, bien un texte féminin, etc., etc. Et enfin, je fais ma composition comme ça, quoi, pour essayer, voilà, d'équilibrer mon livre, quoi, en sachant qu'il y a des textes plus forts et d'autres qui sont plus légers ou plus moins forts. Et donc là, je me dis, là, il me faut quelque chose. Maintenant, il faut que je relance un. Parce que vous dites que ça se picore, mais en fait, moi, je le compose comme si on le lisait de bout en bout. Et donc, j'essaie de faire en sorte que ça tienne la route, quoi.
Parmi vos personnages, David Thomas, il y en a un ou plusieurs, on n'en est pas sûr, mais il y en a au moins un qui est écrivain.
Ah bah oui.
Il vous ressemble ?
Je sais pas. Probablement.
Alors, quand on colle les 7 livres que vous avez publiés avant celui-ci, est-ce que ça fait exactement 12,2 cm ?
Eh ben non, avec celui-là, ça fait plus.
Ça fait plus, oui, mais justement.
Ah ben avant.
Donc les 7, ça fait 12,2.
Les 7, ça fait 12,2.
Ah, vous l'avez vérifié.
Bien sûr.
Donc, on est d'accord, on ne dira pas à quoi vous comparez cette taille, non, mais tout le monde se fera sa propre idée.
Je pense que les gens ont envie de comprendre.
Bon, est-ce que, comme cet écrivain, vous changez de visage à chaque livre? Oui, ça, je pense que c'est même pas la peine de vous poser la question. Ben, à chaque nouvelle, peut-être.
Je peux pas, parce que je suis chauve. Ah, donc, je peux pas changer de visage.
Il y a une histoire de chauve aussi.
Il y a une histoire de chauve, non, mais le gars qui change de visage, il a des cheveux, donc déjà rien qu'avec ça, il peut se changer de coupe de cheveux ou de couleur de cheveux. Moi, j'en ai plus, alors c'est fini, quoi. Ça.
Est-ce que vous êtes un écrivain qui remet chaque fois ses textes à l'eau?
J'en remets beaucoup à l'eau, hein. Ouais.
Bon.
Ben, c'est du déchet, quoi. J'en remets pas mal à l'eau.
Si vous voulez savoir qui je suis, écrivez-vous, passez un moment devant ma bibliothèque. Elle en sait plus sur moi que je n'en sais sur vous, sur moi-même. Elle est mon portrait le plus intime. C'est ce que vous écrivez. Et dans la nouvelle suivante, bah, vous appliquez la même phrase, non pas à une bibliothèque, mais à une femme. Alors, j'ai pas votre épouse sous la main, David Thomas, mais je vous ai vu, qu'est-ce qu'il y a dans votre bibliothèque?
Bah, il y a ma bibliothèque, il y a mes livres. Ma bibliothèque, c'est que, je dis qu'une bibliothèque, c'est comme les empreintes digitales. Il n'y en a pas deux pareils au monde. Et je suis sûr de ce que je dis. Je pense que je suis certain que même pour s'il y a deux bibliothèques qui sont pratiquement identiques, on me fera pas croire qu'il y a au moins un livre qui distingue, voyez. Et il y a rien de plus intime qu'une bibliothèque parce que c'est de personnel en fait finalement. Et donc c'est pour connaître quelqu'un, je pense que regarder attentivement sa bibliothèque, je trouve ça en dit long. Et puis la femme avec qui on vit aussi, puisqu'elle nous connaît, enfin ou l'homme, hein, je veux dire là, moi je parle. Là, c'est un écrivain qui parle, donc il se parle de sa femme. Mais oui, là, ben, notre partenaire en sait plus sur nous que n'importe qui d'autre. Donc,
Merci beaucoup, David Thomas, d'être venu nous voir seul entouré de Chiens qui mordent aux éditions de l'Olivier.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Direction la Corée du Sud avec un mot « une personne » qui désigne ces individus dans l'univers de George Orwell qui sont secrètement assassinés et disparaissent de la société. C'est aussi le titre du livre de Tim Franco, édité par Magenta, qui a souhaité retracer en photo le parcours migratoire de transfuges nord-coréens. Ils sont près de 33 000 à avoir réussi à quitter leur pays pour atteindre leurs voisins du Sud après de longs mois de route. À l'image des une personne d'Orwell, leur vie est en Corée du Sud. Elle aussi n'était pas supposée exister. Nicolas Roca.
중국으로 넘어갔다가 잡혀와가지고 공개 처형된 사람도 있다는 거.
Avant, les personnes qui essayaient de fuir la Corée du Nord depuis la Chine étaient exécutées en public s'ils se faisaient attraper. Aller en Chine était vu comme une trahison, un complot contre le gouvernement. Et c'est toujours le cas.
반국가적 범죄 뭐 이런 거를 취급되거든요.
Comme Kim Eun-je, chaque année, des Nord-Coréens tentent de quitter leur pays au risque de se faire attraper et de finir dans des camps de travail. Mais une fois la frontière passée, ce n'est que le début de leur peine, comme le raconte Tim Franco, photographe franco-polonais, auteur d'Une personne.
En fait, je trouvais ça absolument fabuleux de savoir qu'on partait de ce pays complètement coupé du monde, avec une esthétique assez unique, traverser ces grandes villes chinoises énormes, après arriver dans le sud, traverser illégalement la frontière avec le Laos ou la Birmanie, dans la jungle, après arriver sur les bords du Mékong en Thaïlande, ou à travers la Mongolie, le désert de Gobi, super sec, arriver à Oulan-Bator, une ville encore complètement différente. C'est un des seuls chemins migratoires où on fait le chemin pratiquement inverse pour se rendre à l'arrivée. Donc je pense que c'est quelque chose qui n'était pas évident donc, quand on connaît l'histoire des transfuges, et que je voulais vraiment mettre en matière à travers ce suivi des routes.
Contraint à travailler dans un studio pour ne pas trop en dévoiler sur le quotidien de ces transfuges qui craignent d'être rattrapés par leur ancien pays, Tim Franco a souhaité réaliser ses portraits autrement.
J'ai décidé de travailler avec ces polaroïdes grand format. Une fois que la photographie est faite, on attend une minute, et après on sépare le négatif du positif, et donc on est censé juste jeter le négatif qui sert à rien parce qu'il est sur un papier un petit peu collant et il disparaît peu à peu. Par des procédés un petit peu chimiques où on lave un petit peu le papier autour du négatif, on peut récupérer ce négatif. Mais ça nous donne un petit peu ce négatif un petit peu sale, avec un petit peu de poussière, un petit peu de rayures. Pour moi, c'était une manière parfaite, conceptuellement, faire un portrait simple, d'aller près des yeux, près du visage, raconter cette histoire de leur existence en Corée du Sud.
Car une fois arrivé, le trajet n'est pas terminé et un autre monde les attend au-delà de la DMZ, la zone démilitarisée, paradoxalement l'une des frontières les plus surveillées au monde qui sépare les deux Corées. Entre rejet de la population locale, compétition intense du capitalisme débridé de la Corée du Sud et des proches parfois encore sur place, ils évoluent constamment entre deux mondes. Pour autant, les situations d'origine comme les parcours diffèrent.
Je me suis dit que c'était important d'aller chercher un petit peu les différents profils des gens qui avaient grandi peut-être dans les parties les plus pauvres de la Corée du Nord, le nord de la Corée du Nord. Mais aussi c'était important d'aller chercher les gens qui avaient vécu à Pyongyang, qui faisaient un petit peu partie des élites. On connaît beaucoup c'est ceux qui vont en Thaïlande, mais je voulais aussi voir ceux qui étaient partis en Mongolie ou ceux qui avaient trouvé des moyens plus extrêmes de venir, soit par la traversée de la DMZ, qui est très rare et qui est seulement possible pour des militaires qui sont basés dans la DMZ. Et aussi, le dernier que j'ai vraiment voulu faire et que je trouvais ça extraordinaire, c'est celui qui a préparé son départ pendant 2 ans et qui a fabriqué son propre bateau en Corée du Nord. Et après, il a réussi à faire venir toute sa famille en bateau. Enfin, je trouve ça une des histoires les plus extraordinaires que j'ai dans le livre, ça c'est sûr.
Un livre qui sort une année particulière car depuis la crise du Covid, la frontière chinoise, principale porte de sortie, est surveillée à double tour par les autorités nord-coréennes.
Reportage de Nicolas Roca pour VMDN. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec William Scheller qui publie aux Équateurs son autobiographie sobrement intitulée William. Et vous m'en direz des nouvelles.